La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine au combat des femmes pour leurs droits politiques.
Les femmes ne sont pas assez posées ni assez équilibrées pour faire preuve de jugement en politique.
Si nous autorisons les femmes à voter, ce sera la fin de la structure sociale. Les femmes sont suffisamment représentées par leurs pères, leurs frères, leurs maris.
Si on leur accorde le droit de vote, on ne pourra plus les arrêter. Elles exigeront alors le droit de devenir députées, ministres, juges.
Extrait du film « Les suffragettes » de Sarah Gavron, une fiction qui met en scène le mouvement des femmes mené par Emmeline Pankhurst en Grande-Bretagne au siècle dernier pour obtenir le droit de vote. Et dans cette émission, préparée par Marie Billon, notre correspondante à Londres, je reçois l'historienne Myriam Boussaba. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur de l'Europe des femmes du 18e au 21e siècle, aux éditions Perrin, et professeur au LARCA, ça veut dire le Laboratoire des cultures anglophones. C'est à l'université Paris Diderot. Et c'est avec vous que nous revenons sur cette lutte émancipatrice des femmes en Europe, à travers l'histoire des suffragettes et de leur combat pour le droit de vote. Alors c'est un long combat, ce sont de longs débats. Au fond, de quoi les hommes ont peur au début du XXe siècle en Angleterre ?
Alors ils ont peur de presque tout. En fait, ils ont peur de la question de la propriété, puisque c'est les propriétaires qui ont le droit de vote. Je rappelle que c'est un moment où le suffrage est censitaire pour les hommes qui l'ont. Donc certains hommes n'ont pas le vote.
Ce n'est pas le suffrage universel.
Non, absolument pas. Le suffrage universel arrive en Angleterre en 1918 pour les hommes et en 1928 pour les femmes. Donc on est dans un moment d'extension du suffrage, d'une démocratisation croissante, et cette démocratisation en termes du droit de vote se fait exclusivement pour les hommes, tandis que les femmes le réclament à peu près depuis les années 1850. Donc le film de Gavron, elle a choisi une période qui est une période intense en termes de revendication, qui est la période 1907-1912.
Alors justement, Myriam Boussaba, qui sont ces femmes qui réclament le droit de vote dans ces années 10 en Angleterre?
Alors le film de Gavron est une fiction, mais c'est un film extrêmement bien fait d'un point de vue historique, puisqu'on voit très bien dans ce film qu'à l'époque où qu'elle nous montre, les femmes viennent de toutes les classes. Alors ça, c'est un premier point. Il y a une alliance entre femmes de toutes classes sociales. Donc on a les prolétaires, les ouvrières un petit peu au-dessus, on a les femmes des classes moyennes et on a les aristocrates. Donc, on a des femmes de toutes les classes qui sont investies dans le mouvement. Et c'est aussi un moment où les femmes sont de plus en plus nombreuses à être investies dans ce mouvement. Et aussi, il faut jamais l'oublier, les hommes. Il y a toujours eu des hommes qui ont voulu aider les femmes à s'émanciper.
Alors, il n'y a pas que le mouvement dit des suffragettes. Il y a d'autres mouvements suffragistes qui existent déjà, et pas seulement en Angleterre. Est-ce que vous pourriez dire, en tant qu'historienne, qu'au fond, c'est un mouvement plutôt européen ?
Alors oui, c'est un mouvement européen et avec l'Amérique du Nord incluse. Donc c'est des mouvements de masse, en tout cas en ce qui concerne l'Angleterre et les États-Unis, ce sont des mouvements de masse. En Scandinavie aussi, vous avez des mouvements qu'on pourrait appeler de masse en rapport avec la population. C'est-à-dire que c'est des mouvements anciens, qui sont très structurés, avec une multitude d'organisations, avec des revendications extrêmement précises et un lobbying parlementaire politique auprès des partis politiques auxquels les femmes n'ont pas le droit d'appartenir pour l'instant, auprès de diverses associations. Et donc, c'est un mouvement centré sur le vote à partir du début du XXe siècle. Mais elles réclament toutes sortes de choses en plus du vote.
Qu'est-ce qui serait du coup singulier dans la façon d'agir de ce mouvement dit des suffragettes par rapport au mouvement suffragiste en général, Myriam Boussaba?
Alors la différence, en fait, c'est qu'elles ont le même but. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une collaboration très importante entre les organisations. C'est ce qu'on appelle en anglais « single issue campaign », le vote. Et donc, les organisations d'hommes suffragistes font partie aussi de cette alliance générale. Alors, la différence, c'est comme d'habitude, quand on regarde la politique au sens large, ce sont les méthodes. Quelle méthode va-t-on utiliser pour arriver à son but ? Ce qui est la même chose pour toutes les suffragettes, c'est pourquoi devrait-on obéir à une autorité qui ne nous concerne pas, qui tend à nous opprimer. Les suffragistes, dans leur ensemble, sont ce qu'on appelle constitutionnalistes, c'est-à-dire qu'elles respectent la loi, elles respectent la légalité, et donc ça fait toute une différence en termes de moyens, bien entendu.
Et du coup, le slogan clamé par Emmeline Pankhurst, c'est « deeds and not words », autrement dit des actes plutôt que des mots.
Le mot « suffragette » est créé en 1906 par le Daily Mail. C'était un mot choisi pour être moqueur, mais Emmeline, qui aimait beaucoup la France et qui donc aimait « être » la consonance française, elle a aimé le mot et donc ils l'ont approprié. Et il y avait beaucoup de livres où je voyais mon nom, il y avait des films, des programmes, ou le surnom Pankhurst, ou les suffragettes, ou Emmeline, ou Sylvia, il y avait ces mots. Et je savais que ces mots étaient liés à ma propre histoire.
Elle s'appelle Hélène Pankhurst. Elle est l'arrière-petite-fille de Emmeline Pankhurst, chef de file du mouvement des suffragettes, et la petite-fille de Sylvia Pankhurst, dont elle a reçu l'histoire familiale en héritage. Dans sa maison de Londres, elle se confie à notre correspondante Marie Billon.
Et il fallait que j'explique de plus en plus, quand je devenais plus grande, l'histoire. Parce qu'on me demandait comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu penses de ta grand-mère ou ta arrière-grand-mère. Et c'était compliqué, c'était pas seulement une histoire où je pouvais dire oui, ce qu'ils ont fait, c'était fantastique, c'est important même aujourd'hui. Mais parce qu'il y avait différentes opinions entre elles, il fallait que j'explique un peu que, aussi mon opinion là-dessus. Dans ma jeunesse, les peintures de ma grand-mère étaient sur le mur là, près de la grande escalier. Alors partout, je voyais ces peintures des femmes peintes par ma grand-mère. C'était des peintures des artisanes, donc des femmes qui travaillaient, pas des femmes en pose luxe. L'œil était différent, c'était par une femme, l'image d'une femme qui travaillait.
Ah, voilà. Ici, il y a un livre écrit par mon père sur les peintures de ma grand-mère. Alors, ici, une poissonnière, par exemple, ou une potière. Une boulangère, des femmes qui travaillent dans une usine à fabriquer des chaussures. Emmeline Pankhurst est née en 1858. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas exactement certain si elle est née le 14 ou le 15 juillet. Elle disait toujours que c'était le 14 juillet parce qu'elle voulait l'association française avec le 14 juillet. Elle aimait la France, elle a étudié en France et elle aimait aller en France. Elle est née à Manchester, dans une famille très intéressée dans toutes les questions politiques de la période. Le père de Emmeline n'était pas vraiment militant pour le droit des femmes, mais c'était un radical. Sa mère venait de l'île de Man, Isle of Man. C'est le premier endroit dans le monde où les femmes ont eu le droit de voter. Emmeline a rencontré Richard Pankhurst, qui est devenu son mari, à 21 ans. Dans Richard, Emmeline a trouvé quelqu'un qui avait les mêmes idées qu'elle, qui avait déjà beaucoup travaillé sur les droits des femmes. Et c'était un mariage très très proche, non seulement du côté des émotions, mais aussi du côté politique. Ils ont travaillé ensemble. Ça aurait été très difficile pour Emmeline de d'être une icône sans le soutien de sa famille. Et la même chose, on peut dire la même chose en tant que sa relation avec ses filles. Emmeline est devenue une icône parce qu'elle avait aussi 3 filles et c'était les 4 ensemble qui avaient beaucoup plus de voix, qui pouvaient discuter, qui pouvaient travailler dans différentes parties du pays, qui pouvaient maximiser l'impact de ce qu'ils disaient.
Est-ce qu'il y a eu un moment défini dans l'histoire et dans la vie d'Emmeline Pankhurst ce qui a fait qu'elle a décidé de s'engager dans le combat pour le vote des femmes?
Oui, le moment principal était en 1903, après la mort de son mari.
La mort de l'avocat Richard Pankhurst suscite un élan de solidarité et de générosité à l'égard de sa famille. Une salle lui est dédiée pour rendre hommage à ses dimensions politiques et féministes. Mais ni sa femme, Emmeline, ni ses filles, Christabel et Sylvia, ni aucune femme n'y sont les bienvenues. Trop c'est trop pour Emmeline et ses filles.
En 1903, Emmeline et sa famille fonde l'Union féminine, sociale et politique, c'est-à-dire WSPU en anglais, Women's Social and Political Union. Et à partir de là, ils ont commencé avec cette idée de deeds, not words, c'est-à-dire des actes et pas des paroles. Les actes étaient surtout de déranger des réunions, des meetings politiques, parce qu'elle ne pouvait pas demander des questions comme tous les hommes pouvaient demander des questions. Donc les hommes pouvaient mettre la main en l'air et demander quand est-ce que le gouvernement fera ça ou fera quelque chose d'autre. Pour eux, la question était quand est-ce que le gouvernement donnera le droit aux femmes de voter. Chaque fois que Emmeline ou que Christabel, toutes les femmes qui étaient dans le mouvement, à chaque fois qu'elles essayaient de demander cette question, il n'y avait pas de réponse ou on leur demandait de sortir de la chambre. Et de plus en plus, elles étaient frustrées parce qu'elles ne pouvaient pas demander la question. Alors, elles ont trouvé des méthodes. Par exemple, elles ont écrit « Votes for Women » sur une banderole. C'est devenu un combat entre les suffragettes et le gouvernement, c'est-à-dire la police. Et Christabel a eu l'idée de cracher à un policier parce qu'en crachant, c'est devenu un acte qui a mené qu'elle devait aller en prison, ou plutôt qu'elle devrait être jugée. Et au lieu de payer l'amende, elle a décidé d'être emprisonnée. D'être emprisonnée seulement pour poser la question quand est-ce que le gouvernement donnera le droit de vote aux femmes. C'était en 1905. C'était important d'être emprisonnée parce que une fois qu'on est devant le juge, les médias écrivent ce qui se passe et donc la question rentre dans le média et donc on pourra avoir une discussion là-dessus.
Nous nous battons pour que dans un avenir proche, chaque petite fille qui viendra au monde puisse bénéficier des mêmes chances et des mêmes droits que ses frères. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons pour décider de notre destin. Oui, nous enfreignons les lois de notre pays. Mais nous préférerions les faire, ces lois. Allez-y, militez. Agissez chacune à votre manière. Celles d'entre vous qui peuvent casser des vitrines, faites-le. Celles d'entre vous qui peuvent s'en prendre à la sacro-sainte propriété privée, faites-le. Nous n'avons malheureusement aucune alternative que de défier sans tarder ce gouvernement. Si nous devons aller en prison pour obtenir le droit de vote, brisons les vitres du gouvernement pour qu'on cesse de maltraiter la gente féminine. J'encourage cette assemblée et toutes les femmes britanniques à se rebeller. Je préférerais toujours être une rebelle à une esclave.
L'histoire, c'est vraiment de Emmeline en tant que la directrice du mouvement qui pousse, qui demande plus des femmes qui sont dans le mouvement, dans l'union, mais aussi dans l'union, beaucoup de jeunes femmes, de femmes de différents âges, différentes situations sociales, qui décident d'appliquer cette idée d'action, action et pas parole, dans différentes façons. Et une fois qu'une fille ou une femme commence de faire quelque chose, par exemple de lancer un pavé et de casser une fenêtre, elle voit le pouvoir de cet acte et elle encourage les autres. Une fois qu'une personne de refuser de manger dans les prisons, elle réalise le pouvoir de cet acte et elle encourage les autres. Donc ce n'est pas toujours elle qui commence, qui a les idées. C'est différentes personnes dans le mouvement.
Le droit de vote pour les femmes! Le droit de vote pour les femmes! Le droit de vote pour les femmes! Nous avons gagné! Le droit de vote pour les femmes! Des actes, pas des mots!
Dans son livre « My Own Story », elle écrit « There is something that governments care far more than human life, and that is the security of property. And so it's through property that we shall strike the enemy. Be militant each in your own way. I incite this meeting to rebellion. » Ce qui est important là pour moi, c'est qu'elle réalise l'importance de la propriété, mais aussi que les femmes ne peuvent pas tous rentrer dans l'union et faire la même chose. Donc il y en a qui pourraient peut-être être plus extrêmes que d'autres. Et il y en a d'autres qui ne voudraient pas détruire la propriété. Donc ce qu'elle dit, c'est « be militant each in your own way ». Soyez militante chacune à votre façon. Dans son autobiographie « My Own Story », elle écrit « We are here not because we are lawbreakers. We are here in our efforts to become lawmakers. On n'est là pas pour enfreindre la loi, mais pour participer dans l'écriture de la loi. Et c'est vraiment le cœur de ces idées, c'est au centre de ces idées. Si les femmes ne peuvent pas participer dans la loi, participer à écrire, à formuler les lois, elles s'enfreindront la loi.
La voix de Hélène Pankhurst dans La Marche du Monde. Elle est l'arrière-petite-fille d'Emmeline Pankhurst, chef de file des suffragettes, l'un des mouvements d'émancipation pour les droits politiques des femmes au début du siècle en Angleterre. C'est une histoire que vous connaissez par cœur, Myriam Boussaba, puisque vous travaillez depuis de nombreuses années sur ces différents mouvements où la question de la désobéissance civile est posée. Est-ce que c'est un vrai levier pour faire aboutir ces revendications?
Alors, c'est un levier évident qu'elle s'approprie. C'est pas elle qui l'invente, puisque il faut aussi penser que toutes ces femmes lisent, sont extrêmement au courant de tout ce qui se passe partout. Elles sont très inspirées par les nihilistes russes, par exemple, pour les histoires de grève de la faim. Elles sont la question des attentats terroristes. Elles ont vu aussi ce que ça donnait, notamment en Russie. Donc, il y a une question sur une réflexion sur la violence et sur la politique de la violence qui est présente. Il ne faut pas imaginer que ces femmes sont des hystériques. Il faut s'éloigner du stéréotype qui les prend pour des hystériques, qui cassent des vitres et qui crient des tas de choses sans sens. Il faut penser que ce sont des militantes politiques et qu'il y a une réflexion politique derrière celle-ci et que cette réflexion politique, elle naît de leur exclusion du système politique anglais, des partis politiques, puisque les femmes n'ont pas le droit d'appartenir aux partis politiques. Elles n'ont pas le droit d'être dans les enceintes politiques, par exemple le nouveau bâtiment construit à Manchester dont le nom est devenu Richard Pankhurst, et donc les filles et les femmes de sa famille n'ont pas le droit d'y entrer. Au Parlement anglais, les femmes n'ont pas le droit d'être là, elles sont derrière des grilles. Enfin, il y a toute une question de où doivent se trouver les femmes et qu'est-ce qu'elles doivent faire. Il y a des injonctions sociales et non pas politiques, on leur refuse une existence politique. Donc on a des injonctions sociales qui sont tais-toi, fais ce qu'on te dit, fais des enfants, occupe-toi bien entendu de la famille, etc. Et c'est la même injonction qu'on va trouver pour toutes les femmes dans toutes les classes sociales, et bien entendu, elle sera déclinée économiquement selon qu'elles seront riches, éduquées pour les classes moyennes, ou qu'elles soient de la classe ouvrière, c'est-à-dire généralement ayant besoin de travailler pour un revenu. Donc ça, c'est une situation qui fait que les femmes de cette époque-là réfléchissent en se disant « Bon, alors nous, on a un problème en tant que personne, en tant qu'individu. On voit que nos voisines ont exactement le même problème. On voit que nos employés ou nos employeuses ont le même problème. Donc la question va se poser, c'est que si on doit dessiner un chemin politique pour résoudre nos problèmes, qui sont les nôtres, mais qui sont aussi ceux de nos enfants, de nos maris, il y a un côté très altruiste dans le mouvement d'émancipation des femmes. Elles le font aussi pour les autres. Elles s'émancipent pour que les autres soient mieux. Donc, si nous n'avons aucune place dans l'organisation politique, il faut qu'on en crée une pour nous-mêmes.
Et donc, il faut désobéir. Alors, en ce qui concerne les différentes figures féminines de ces mouvements, vos travaux m'ont permis de découvrir l'itinéraire de celle que la presse, je vais préciser masculine, puisque aucune femme n'écrive dans la presse, a surnommée la femme au fouet. Il s'agit de Teresa Billington Gregg. Elle est née en 1877 et décédée en 1964. Elle est à la fois militante et journaliste. C'est une pionnière, Myriam.
Absolument. Elle est pionnière à plein de niveaux. D'abord, c'est une... Alors, on ne peut pas dire que c'est une intellectuelle parce que c'est au départ, elle vient d'un milieu ouvrier très défavorisé. Donc, elle n'a pas l'envergure, elle n'a pas les études, elle n'a pas accès à l'université comme certaines ont déjà accès à l'université à l'époque. Mais attention, les femmes qui vont à l'université n'ont pas le droit d'être diplômées. Hein. Elles ont juste le droit d'aller à l'université. Donc, sans diplôme, elles ne peuvent pas arguer de compétences. Donc, elles ne peuvent pas aller dans les métiers des classes moyennes. Hein, la question du travail est un enjeu absolument énorme, pas seulement pour les ouvrières, mais aussi pour les femmes des classes moyennes.
Pourquoi Teresa Billington Gregg est-elle surnommée la femme au fouet ?
Alors, c'est la femme au fouet, puisque dans ce qu'on a entendu là, sur le fait de perturber les réunions, ça se passe en 1906. On est à Northampton, qui est donc un endroit, une terre libérale, c'est-à-dire une terre où le parti libéral gagne les élections assez fréquemment. C'est un mélange de propriétaires terriens et d'usines ou d'ateliers où on fabrique des chaussures, par exemple. C'est vraiment un endroit où on fabrique des chaussures sous différentes formes, sous une forme capitaliste ou sous une forme coopérative. Donc, on a une mise en place de plusieurs systèmes de production. Éventuellement, on peut imaginer qu'il y a peut-être un choix à faire entre les différents systèmes de production et d'organisation de la production. Donc, c'est une terre où on a des opportunités de choix et de réflexion. Et donc, il y a une campagne électorale en place. Les libéraux sont en campagne. On pense qu'ils vont gagner. En fait, ils vont gagner très, très largement contre les conservateurs de l'époque. Et il y a donc une réunion électorale. Et comme ça a été décrit dans le reportage, les femmes avaient pris l'habitude d'aller à ces réunions électorales, les suffragettes, et de dire bon, quand est-ce que vous allez donner le vote aux femmes ? C'est-à-dire, à quel moment dans votre programme électoral vous allez parler des femmes ? Il faut quand même le dire que le premier parti politique qui met sur sa plateforme électorale que les femmes doivent avoir le vote, c'est le Parti travailliste, et c'est seulement à la fin 1912. Donc à cette époque-là, elle n'existe pas dans les partis politiques, elle n'existe pas dans les programmes. Et donc les femmes systématiquement perturbent en disant « Quand est-ce que vous allez donner le vote aux femmes ? Quand est-ce que vous allez donner le vote aux femmes ?» Et systématiquement, elles sont expulsées des meetings. Et ce qui est moins dit, mais qu'on sait en lisant les lettres des militantes et quand elles en discutent entre elles, et ce qui n'est pas dissible à l'époque, c'est que quand elles sont expulsées, les services d'ordre ne se privent pas pour les tripoter, déchirer les vêtements, etc. Donc on ne les expulse pas seulement comme on expulse les hommes, qui se font expulser aussi. Elles sont expulsées en tant que femmes et donc tripotées. Et cette Billington Gregg, elle décide que, évidemment, elle va se faire expulser. Mais elle prévoit l'affaire et elle vient avec un fouet. Et au moment où le service d'ordre vient pour l'expulser, elle sort son fouet et je ne dirai pas ce qu'elle dit. Et donc elle les fouette. Et donc là, on rentre dans l'autodéfense, si vous voulez, de cette femme, mais aussi le fait qu'elle est en train de fouetter des hommes. Donc, évidemment, on a une lecture extrêmement sexuelle du moment qui est scandaleuse pour l'époque.
Alors, je ne sais pas si le fouet de Teresa Billington Greig est au musée de Londres, mais d'autres objets tactiques y figurent et sont présentés par Beverly Cook, curatrice en histoire sociale, au micro de Marie Billon.
The national press had a very complex response to the suffragette campaign.
La presse nationale britannique a eu une réponse complexe au combat des suffragettes. D'abord, elle était de leur côté et les soutenait, mais au fur et à mesure que leur méthode devenait plus extrême, que leur action devenait plus violente et militante, les journaux ont commencé à se retourner contre elle. Ils reflétaient tout à fait l'opinion publique dans ce revirement. Car même si beaucoup de gens pensaient que les femmes devaient avoir le droit de vote, un grand nombre des approuver leur méthode.
We have a number of items in the collection that relate specifically to suffragette militant tactics.
Et justement, dans notre musée, nous avons beaucoup d'objets liés à leur tactique. Les armes qu'elles utilisaient pour casser les vitres, comme ce petit marteau de poche, mais aussi cette grosse ceinture en cuir à laquelle sont accrochées des chaînes. Elles bouclaient la ceinture sous leurs habits, passaient les chaînes dans les manches pour s'attacher à des bâtiments publics devant lesquels passaient beaucoup de gens et où elles pourraient attirer l'attention des autorités. C'était une technique qui embarrassait beaucoup les policiers, car la manière la plus simple de détacher les suffragettes était de passer sous leurs vêtements pour défaire la ceinture. Évidemment, la police ne pouvait pas mettre la main sous leur jupe.
So this gave the suffragettes time to deliver a speech, to shout votes for women.
Tout ça donnait aux suffragettes le temps de faire un discours, de crier droit de vote pour les femmes autant de fois que possible et d'attirer l'attention sur elles. Alors d'ici à ce que la police ait trouvé comment les détacher, elles avaient atteint leur but.
Vote for Women, le cri de ralliement des suffragettes, qui sont souvent arrêtées par la police, plus de 1300 femmes arrêtées selon Beverly Cook, curatrice au musée de Londres, des femmes arrêtées, incarcérées en prison. Est-ce qu'au sein de la prison, à nouveau, elles vont tenter de désobéir, elles vont tenter de mener des actions, Myriam Boussaba?
Oui, absolument. Donc, j'ai déjà évoqué tout à l'heure les nihilistes russes qui ont mis au point la grève de la faim, hein, enfin, en termes politiques. C'est un exemple très récent pour elles, hein, à l'époque. Elles sont parfaitement au courant. Alors, on ne sait pas trop comment ça commence, si ce n'est que c'est un petit peu par hasard. Il y en a une qui le fait et ça marche très bien. Donc, c'est 1909, ça marche très bien. Et les autorités sont prises au dépourvu et la relâchent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et donc, à partir de là, on est en 1909, donc on a les suffragettes du type Pankhurst et Melaine Christabel. Il y a eu la scission avec celles qui sont emmenées par plusieurs, dont Teresa Billington Greig. Donc, on est dans celles qui vont mener la violence de façon assez systématiquement dans toutes leurs actions. Elles sont donc beaucoup plus systématiquement arrêtées, bien entendu, et elles recherchent aussi le fait d'être arrêtées. Et ensuite, quand elles sont en prison, elles demandent le statut de détenus de première classe, c'est-à-dire les détenus politiques, et elles refusent d'être des détenus de troisième classe, c'est-à-dire le droit commun. Donc, au sein même de la prison, elles exigent d'être reconnues comme telles. Il faut aussi dire que les premières classes, détenus politiques, ont droit à des crayons et du papier pour écrire, etc. Donc, des choses qui font que le temps en prison est très différent. Évidemment, on ne leur reconnaît pas le statut de détenu politique, et donc là s'enchaînent des grèves de la faim à répétition. Certaines d'entre elles sont arrêtées beaucoup de fois et beaucoup de fois font des grèves de la faim. On a des descriptions absolument terrifiantes de ce qui se passe. Hein. Il y a eu quelques images qui sont des images, une image fictionnelle qui reproduit ce qui peut se passer dans un film de 1913.
Vous voulez dire qu'elles sont gavées de force?
Elles sont gavées de force, oui, ça devient la façon de faire. Et lorsque les gencives sont trop abîmées par le gavage de force, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles utilisent ce que toutes les femmes connaissent encore aujourd'hui comme instrument, les spéculums, hein, pour ouvrir la bouche, ce qui est un outil ou un instrument de l'examen gynécologique aujourd'hui. Donc, ça sert pour la bouche. Et quand les gencives de la bouche saignent trop en permanence, on passe des fils par le nez pour les nourrir de force.
Il est vrai, Myriam Boussaba, que Sylvia Pankhurst aurait dessiné et offert des médailles à toutes celles qui sont passées en prison.
Alors, il y a une mise en scène importante, il y a une héroïsation des femmes victimes.
La mémoire des suffragettes, toujours très vivante chez les femmes activistes en Grande-Bretagne, à travers notamment la fameuse Marche des femmes, un chant que l'on peut encore entendre dans les manifestations féministes. On écoute le reportage de Marie Billon à Londres.
Je suis Grony Gillis, je suis une chanteuse d'opéra contralto. Je vis à Brockley, au sud-est de Londres. J'ai organisé une chorale pour chanter la chanson des suffragettes, la marche des femmes, en juillet dernier, lors de la manifestation contre la visite du président américain Donald Trump à Londres. On voit bien que dans le monde aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance vers la domination masculine. Je pense qu'il est très important que les femmes n'acceptent aucun recul sur les progrès effectués ces 100 dernières années. Pour nous, chanteuses, ce jour-là, c'était un moment d'émotion. Nous avions vraiment l'impression de marcher dans les pas de nos arrière-grand-mères ou arrière-arrière-grand-mères.
La marche des femmes était l'hymne des suffragettes. Ethel Smyth l'a composée en 1911. Elle était très impliquée dans le mouvement des suffragettes. La marche des femmes, tout simplement, incite à se soulever pour obtenir le droit de vote. Le style est très martial. Le but est de faire savoir qu'il y a ici une armée de femmes prêtes à se battre pour leurs droits. Je crois que cette chanson a donné du courage aux suffragettes. Le fait qu'elle ait traversé les âges et qu'elle avait du sens encore cet été lors de la manifestation contre Donald Trump est déjà très parlant.
Ethel Smyth was a remarkable woman, really, for her time. I mean,
Ethel Smyth, elle-même, était une femme extraordinaire pour son époque. C'est elle qui a appris aux suffragettes comment lancer une pierre pour briser une vitre, ce qui est devenu un acte militant très important pour le mouvement. En 1912, elle a été emprisonnée dans le centre de détention d'Holloway à Londres, après une campagne de cassage de vitres, justement. En l'occurrence, elle avait choisi une fenêtre bien particulière du Parlement, celle de Lewis Harcourt, le ministre des colonies, très hostile à la cause des femmes.
Greatest admirers was the playwright and music critic from Ireland, actually, George Bernard Shaw.
L'un des plus grands admirateurs d'Ethel Smyth était le dramaturge et critique musical irlandais George Bernard Shaw. Il était tombé amoureux de sa Mass in D, la messe en ré. Il a dit que c'est ce qui l'avait convaincu que les femmes pouvaient composer de la musique. Donc, quand elle était à la prison d'Holloway, il est allé lui rendre visite et il l'a vue en train de faire la chef d'orchestre avec une brosse à dents dans la cour alors que les détenus faisaient leur promenade quotidienne et elle chantait.
New York. My dad was American. My mom is Irish.
We moved back, though, quite quickly. We did the reverse immigration thing in the 1970s.
Je suis née à New York. Mon père était américain, ma mère est irlandaise. Nous sommes retournés vivre à Cork, en Irlande, dans les années 70. Culturellement, je suis irlandaise. C'est pour ça que la République joue un rôle important dans mes valeurs et mes activités militantes. L'un des plus grands moments de ma vie fut quand Mary Robinson a été élue présidente d'Irlande en 1990. Ce fut un grand jour pour les femmes irlandaises qui sont historiquement très actives politiquement. Il y avait des suffragettes en Irlande. La plus connue est Constance Markievicz, qui en 1918 d'ailleurs deviendra la première femme députée élue au Parlement de Westminster.
Did you have the fight to achieve equality for women?
Être suffragette en Irlande est assez complexe parce qu'il y avait la bataille pour l'égalité des droits, mais il y avait aussi le combat contre l'Empire britannique. Et les deux idéaux ont finalement fusionné parce que la promesse de Patrick Pearse lors de la proclamation de 1916 pendant les Pâques sanglantes était que l'État libre d'Irlande, une fois libéré de l'Empire britannique, accorderait un statut égal aux femmes et aux hommes irlandais. Donc les femmes ont été très actives dans la lutte pour l'indépendance et ont combattu aux côtés des hommes. Les Irlandaises ont obtenu le droit de vote en 1918, comme les femmes dans tout le Royaume-Uni. Mais là non plus, ce n'était pas le suffrage universel. Seules celles appartenant à une certaine classe sociale, à l'aristocratie anglo-irlandaise, ont gagné ce droit. En 1922, à la fin de la guerre civile, quand l'État libre d'Irlande a été établi, hommes et femmes ont obtenu le droit de vote sur un pied d'égalité. Mais quand les Britanniques se sont retirés, c'est l'Église catholique qui a pris sa place. Alors même si les femmes irlandaises avaient le droit de vote, beaucoup de leurs autres droits ont ensuite été limités.
Écoutez, la marche du monde sur RFI, nous évoquons la mémoire du combat des femmes pour leurs droits politiques, des femmes extrêmement intuitives, inventives. Myriam Boussaba, c'est extrêmement frappant tout au long de cette émission.
Oui, alors elles sont intuitives, mais elles sont surtout inventives, je préfère comme adjectif, c'est-à-dire qu'elles vont saturer l'espace public d'initiatives qui vont les rendre visibles. C'est une époque où les femmes ne sont pas du tout visibles, et donc incontournables, et à partir de là, pensent-elles, on va pouvoir écouter ce qu'elles ont à dire. Donc il y a une intelligence de situation, et en particulier, si on revient sur les suffragettes, qui est donc une sorte de suffragiste, on peut parler de Christabel Pankhurst, donc la sœur de Sylvia, la grand-tante de Helen Pankhurst qu'on a entendue tout à l'heure, qui avait une intelligence de la communication et de la publicité visuelle, active, etc., très très importante. En même temps, elle a été critiquée par des gens comme Billington Greig en disant que ça c'est très bien, mais après qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on vote. Il y a tout juste un siècle, les Anglaises votaient pour la première fois en décembre 1918 aux élections générales britanniques. Un sacré événement. Comment a-t-il été vécu par les mouvements suffragistes et internationalistes? Parce que vous avez souligné, Myriam Boussaba, que ce mouvement existe en Europe, mais aussi en Amérique du Nord.
Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'en 18, tous les hommes sans condition de ressources votent. C'est une nouveauté, hein, ça n'était pas le cas précédemment. Et pour les femmes, c'est seulement les femmes qui sont propriétaires en leur nom propre ou épouses de propriétaires. C'est-à-dire que pour les femmes, il s'agit toujours d'un suffrage censitaire. Et il faut aussi qu'elles aient plus de 30 ans. Parce qu'on est très inquiets au niveau des hommes politiques qui considèrent que, certes, il va falloir faire quelque chose pour les femmes parce qu'on va les, récompenser parce qu'elles ont été bien pendant la guerre. Donc on va les récompenser. On ne parle pas de droit, on va les récompenser. Mais en même temps, tellement de jeunes hommes sont morts dans les tranchées françaises que la question du nombre fait peur. C'est-à-dire que là, on revient au fantasme très ancien que les femmes vont dominer, y compris numériquement, et qu'elles vont engloutir les hommes. Et donc, on se dit, il faut limiter le vote des femmes en nombre. Donc, on va prendre les plus âgés, on n'aura pas les jeunes, on n'aura aucune ouvrière, puisque ce sera censitaire.
Comment, Myriam Boussaba, c'est reçu, je dirais, dans cette internationale des militantes pour le droit de vote?
Alors, en Angleterre, déjà, c'est une énorme claque pour les femmes qui considèrent que, bon, les légalistes disent que c'est quand même mieux que rien. Et puis, ça nous met le pied à l'étrier, donc on va continuer. La lutte n'est pas finie. Ailleurs, c'est considéré comme une semi-victoire. On a les femmes qui ont le vote en 1906 en Finlande. On a au sein de l'Empire britannique, dans ce qu'on appelait les White Colonies, les colonies blanches, la Nouvelle-Zélande, qui donne le vote, une des régions de Nouvelle-Zélande donne le vote aux femmes, c'est-à-dire que la périphérie impériale fait mieux que la métropole qui continue à ne pas donner le vote aux femmes ou en donner un tout petit bout en 1918.
Alors justement, comment ça s'est passé dans l'Empire britannique et notamment en Inde, ce qui n'est pas rien hein, en termes d'espace impérial. Le point avec l'historienne Sumita Mukherjee.
So the Indian women who were campaigning for the vote didn't use the term suffragettes to describe themselves.
En Inde, les militantes n'ont pas repris le nom de suffragettes. Elles se considéraient simplement comme activistes féminines. Mais les médias indiens et britanniques utilisaient quand même ce terme de suffragette pour les décrire. Pourtant, elles n'utilisaient pas du tout les mêmes tactiques. À travers l'Empire, on entendait beaucoup parler des esclandres des suffragettes. Les femmes indiennes ont préféré éviter de s'attirer ce genre de publicité négative. Elles ont donc privilégié une voie plus démocratique et paisible. Elles organisaient des pétitions où elles envoyaient des lettres à tous ceux qui, en Inde ou au Royaume-Uni, pouvaient avoir une influence sur le suffrage. Dès le début, elles ont vraiment eu le soutien des hommes en Inde. La démocratie était encore neuve dans le pays, elle datait de 1917. Les hommes estimaient qu'il fallait que dans un État colonial, il y ait égalité. Mais les politiques britanniques ne voulaient pas en entendre parler. Ils avaient beaucoup de stéréotypes sur les femmes indiennes. Ils pensaient qu'elles étaient toutes voilées, alors qu'il s'agissait surtout des musulmanes, qu'elles vivaient isolées, à la merci de leur mari et sans éducation. Ils pensaient qu'elles ne sauraient pas quoi faire de ce droit. Et ils s'inquiétaient de l'hostilité des hommes conservateurs en Inde, même si la plupart des hommes étaient en faveur du droit de vote pour les femmes.
Et pourtant, le Mahatma Gandhi était favorable au droit de vote des femmes dès les années 20, une promesse pour l'Inde indépendante. Mais pour Gandhi, le combat pour l'indépendance était plus important et plus urgent.
But in 1919, what the British government do decide to do is they give a concession that if the Indian regions...
En 1919, le gouvernement britannique a pris une décision importante. Chaque région indienne avait désormais son propre parlement et chaque chambre législative allait avoir le droit d'accorder, si elle le souhaitait, le droit de vote aux femmes. En 1921, les États de Bombay et Madras ont donc fait ce choix dès qu'ils en ont eu l'opportunité. En 1935, tous les États de l'Inde britannique avaient accordé le droit de vote aux femmes. Mais bien sûr, ce n'était pas le suffrage universel. Comme pour les Britanniques en 1918, seulement certaines femmes, si elles avaient une propriété ou si elles avaient un certain niveau de diplôme universitaire, avaient le droit de vote. Ainsi, en 1935, seules celles qui avaient un portefeuille immobilier avaient ce droit de vote. Or, en Inde, il est extrêmement rare que la femme soit inscrite sur les papiers et les actes de vente. La plupart du temps, il n'y avait que le nom de l'époux. Donc, de fait, en 1935, 1935, seul 1% des femmes indiennes avaient réellement le droit de vote.
It's only about 1% of the population of Indian women who could vote in 1935.
Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de remettre cette question du militantisme des femmes dans son époque, Myriam Boussaba, une époque qui est celle des grands empires britanniques, mais aussi français. Quel était le point de vue des suffragistes, en général, sur la colonisation ?
Alors, il faut arriver à comprendre que ces femmes qui peuvent être des héroïnes de leur propre émancipation à certains moments et d'un côté, sont aussi des femmes de leur époque. Elles sont totalement intégrées à leur époque et donc elles pensent comme les gens de leur époque. Les femmes sont plus de la moitié des gens de l'époque, donc c'est normal aussi qu'elles pensent comme eux. Donc, chez les suffragistes, mais aussi chez les suffragettes du style Pankhurst, on a donc des femmes qui sont pour l'émancipation des femmes, mais par exemple, on a un courant très important de femmes anglaises qui pensent qu'il faut que l'Irlande reste une propriété britannique. Donc, elles sont contre les degrés d'autonomie de l'Irlande. On a tout un débat public qui s'appelle Home Rule avant la Première Guerre mondiale. Et donc, les unionistes conservateurs disent que l'Irlande doit rester un territoire anglais. Et parmi les femmes suffragistes, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont unionistes. Voilà. Alors, par rapport à l'Inde, il faut comprendre aussi qu'il y a quand même pas mal de femmes qui font le voyage jusqu'aux Indes en tant qu'épouses d'administrateurs coloniaux, etc. Donc, il y a des carnets de voyage qui sont très importants. C'est une littérature de connaissances pour les femmes, le carnet de voyage. Écrit par des femmes. Donc, elles sont dans l'administration coloniale par leurs époux. Et donc, on est dans des situations où on ne rencontre pas d'indiennes, hein, ou très, très peu. Et c'est extrêmement... on ne rencontre pas d'indiens non plus. Hein. Donc, les populations sont très séparées. Mais en ce qui concerne Gandhi, que vous avez mentionné, j'ai une petite anecdote pour avant la Première Guerre mondiale. Donc Gandhi, en 1907, vient au Congrès international des végétariens qui se tient à Londres et où on va trouver non pas Billington Greg, mais d'autres personnes qui l'ont accompagné, dont Charlotte Despard.
Ne dites pas qu'il se prend un coup de fouet.
Pas du tout. Il est assis à côté de Charlotte Despard, qui est une suffragette désobéissante et non violente. Et il y a des discussions très, très importantes. Donc, il apprécie que Charlotte Despard ne porte des sandales sans collant à longueur d'année. Elle a les cheveux au vent, etc. Ce qui, à l'époque, est un pur scandale, puisqu'on doit avoir des chapeaux. Et il parle végétarianisme et désobéissance civile. Et en fait, Gandhi, dans ses mémoires, dira qu'il a été très impressionné par les tactiques non violentes des suffragettes anglaises.
Alors néanmoins, Myriam Boussaba, et nous allons conclure cette émission avec cette question. Quels que soient les mouvements d'émancipation, tels que par exemple on les a connus en France, la Commune, mai 68, est-ce que néanmoins, à chaque fois, ne faut-il pas que les femmes se prennent en charge spécifiquement pour qu'elles puissent obtenir ? Puisqu'on a vu en Angleterre par exemple que les travaillistes soutenaient réellement ces suffragettes, ces suffragistes en général.
Alors ils ne soutiennent pas réellement et ça dépend sur quoi ils les soutiennent, donc c'est beaucoup plus mitigé que ça. En fait, aujourd'hui, avec toutes les productions de savoir sur les campagnes d'émancipation, en particulier sur l'histoire des femmes et du genre, on sait très bien que les femmes sont ce qu'on appelle des gens tiraillés entre différentes loyautés. C'est-à-dire qu'elles s'émancipent, elles, ça peut être au détriment de leur mari. Elles réclament à travail égal, salaire égal, et bien ça signifie que peut-être elles rendent plus vulnérable le niveau de salaire du mari. Donc, pour les femmes, il s'agit toujours de réfléchir, est-ce que je m'occupe de moi d'abord et après je serai géniale pour tout mon entourage, ou bien est-ce que je dois m'occuper des intérêts ouvriers, des intérêts des classes moyennes et donc enterrer mes propres intérêts.
Et donc un siècle après, la question se pose toujours. Merci Myriam Boussaba. Je rappelle le dernier livre dont vous êtes co-auteur aux éditions Perrin, L'Europe des femmes du 18e au 21e siècle. Women for Vote, c'était un épisode de La Marche du Monde proposé par Marie Billon à Londres, réalisé par Sophie Janin et signé Valérie Nivelon. On se retrouve sur les réseaux sociaux et bien sûr sur la page rfi.fr de La Marche du Monde. Exprimez-vous les filles, podcastez, cette émission c'est la vôtre.